histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck nous ont raconté l'histoire de Léo Castelli, un immigré juif d'origine austro-hongroise qui a été le promoteur de l'art américain qui, jusqu'à lui, n'avait pas le moindre rayonnement. C'est aussi l'histoire d'un couple, celui que forma Léo Castelli et Ileana Sonnabend, qui l'un aux États-Unis et l'autre en France contribuèrent à ce rayonnement. Tout de suite, dans le second épisode, nous sommes en 1962 et les Français découvrent pour la première fois en Europe les pop artistes tels que Jones, mais surtout Andy Warhol.
Léo Castelli, agent du triomphe de l'art américain.
Commencer peut-être par les années 50.
Léo Castelli, 1981.
Les deux artistes, peut-être les plus importants, les artistes de base qui ont influencé tout le monde pendant les années 60 sont Rauschenberg et Jones.
Deuxième partie, Ileana dans l'ombre de Léo ou le sacre du pop art de Paris à Venise. Si l'expressionnisme abstrait a inscrit l'art américain, pour la première fois de son histoire, au rang de la modernité, c'est avec le pop art qu'il va s'imposer de manière éclatante en Europe, avec la victoire de Robert Rauschenberg à la Biennale de Venise de 1964. Pour comprendre ce sacre vénitien, il faut revenir quelques années en arrière. En 1956, Jackson Pollock est mort et l'expressionnisme abstrait est en perte de vitesse. Mais grâce à lui, l'art américain existe aux yeux des Européens et il commence à rivaliser avec l'école de Paris et un marché de l'art français qui domine le monde. La rencontre du collectionneur new-yorkais Léo Castelli avec les deux précurseurs du pop art, Jasper Jones et Robert Rauschenberg, va faire souffler un vent de fraîcheur à l'heure où l'art américain se cherche une nouvelle respiration. Et Castelli ne s'y trompe pas, qui en 1957 décide d'ouvrir sa première galerie à New York.
Quand Castelli faisait ses visites d'atelier dans les années 50, il va donc découvrir la galerie de Rauschenberg. Il voit ses combines et donc Rauschenberg disait à ce moment-là, personne ne s'intéressait à notre travail. Je montrais à Jasper, Jasper m'a montré ses œuvres, personne ne s'intéressait. Et les marchands qu'on invitait étaient endormis avant la fin du repas.
Annie Cohen-Solal, biographe de Léo Castelli.
Et la première œuvre de Jasper Jones que Castelli ait vue, c'est A Green Target, donc une cible verte. C'était au musée juif, quelques jours avant d'aller voir l'atelier de Rauschenberg. Et cette Green Target, cette cible verte, pour Castelli, c'était entièrement nouveau. C'était une couleur qui était nouvelle, un thème qui était nouveau et un artiste qui était nouveau. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que faisaient de Kooning, Pollock, Rothko, etc. Et ça, c'est exactement ce qu'il cherchait. Donc il va voir Rauschenberg, et Rauschenberg lui faisait un autre travail. Il faisait des combines. Et les combines, c'est très précisément ce qu'avait fait aussi Picasso, c'est faire entrer l'art mineur dans la peinture, c'est-à-dire prendre des déchets, des trucs dans la rue. Il collait des bouts de fenêtre qu'il trouvait dans les déchets, il collait des bouts de plastique, il prenait par exemple un animal empaillé, et il construisait un monde, une histoire là-dessus. Et donc, ça s'appelait Combines, mais personne n'achetait, personne ne s'intéressait. Donc, Castelli va voir les Combines et il dit à... Et Rauschenberg lui demande, c'était un dimanche après-midi, tu veux un coca ou tu veux une bière? Il dit, je veux un coca. Tu veux de la glace? Oui, je veux de la glace. Alors, je vais chercher la glace chez mon voisin du dessous, qui est Jasper Jones. C'est lui qui a le frigo. Et Castelli dit, Jasper Jones? Est-ce que c'est lui qui a fait la Green Target au Jewish Museum? Oui. Ah, mais est-ce que je peux venir avec toi? Oui. Et Castelli dit, mais... Et je vois une œuvre entière, des targets, des chiffres, des cartes, des lettres. Et il demande à Jasper Jones, est-ce que je peux t'exposer dans ma galerie? Et Jasper Jones dit oui. Castelli s'en va, il plante là Rauschenberg, et l'exposition de Jasper Jones est un succès. Et puis après, deux mois plus tard, Rauschenberg, qui était quand même assez vexé, va dans la galerie de Léo Castelli. Mais Castelli n'était pas là, c'est Ileana, la femme, donc, qui le rencontre. Et il lui dit, moi alors? Et elle lui dit, je peux pas parler pour Léo, mais je peux te dire qu'il va t'exposer et je te promets que ça aura lieu. C'est son premier geste de marchand. Quand elle dit à Rauschenberg, Léo t'exposera dans la galerie, c'est le premier geste. Elle, à l'époque, elle est la femme de Castelli, elle est entre parenthèses.
Donc Iliana Sonnabend, donc mariée avec Léo Castelli, ils se sont rencontrés en 35. Ils sont mariés, elle avait 17 ans, donc elle venait d'une famille très très riche, une famille roumaine. Son père, entre autres, avait fait fortune dans les chemins de fer.
Nathalie Obadia, galeriste.
Donc ils viennent avec Léo Castelli à Paris, la fin des années 30. Et puis ils viennent tout de suite aux États-Unis parce que tous les deux juifs, ils ne pouvaient pas rester en France. Puis après, ils vont divorcer assez tôt. Elle va se remarier avec un intellectuel, Michael Sonnabend. Et ils restent très très proches avec Léo Castelli jusqu'à la fin de leur vie. Et elle essaye de faire quelque chose à New York, mais ce n'est pas évident. Dans la mesure où Léo Castelli a ouvert sa galerie en 57, toute l'attention est sur lui. Donc... je ne vais pas rentrer complètement dans les détails. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon peut-être aussi de se libérer de l'emprise de l'aura de Léo Castelli? Elle a dû être agacée. Elle a été malheureuse en mariage avec lui quand même. C'est, on le sait. Donc peut-être que c'était une façon de dire « je retourne en France ». Et elle vient s'installer ici. Mais comme elle s'entendait très bien avec Léo pour tout ce qui était art et commerce, donc elle devient un peu la référence en France de ce pop art. Et donc elle a récupéré, c'est Rauschenberg entre autres qui montrait chez Daniel Cordier. Donc ils sont partis, ces artistes américains sont partis des galeries françaises où ils montraient pour aller chez elle. Donc elle a été le point d'ancrage des Américains en France.
Mais la galerie à Paris ne marche pas du tout. Je me souviens que c'est Raphaël Sorin qui travaillait là-bas, qui m'a dit un jour, à une époque où on exposait les combats de Rauschenberg rue Mazarine, il dit, j'avais passé la journée dans la galerie, personne n'était venu, un jour quelqu'un entre, ouvre la porte, crache sur la chèvre et sort. C'était à peu près ça qui s'est passé dans une journée. Et il y a eu des interprétations aussi très 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 bizarres que les Sonnabend étaient en train de, c'était une exposition d'Andy Warhol, de promouvoir la politique américaine. Mais eux étaient très critiques de la politique américaine. C'est des artistes qui voulaient montrer. Les Français, en majorité, ont été extrêmement hostiles à ce qui arrivait des États-Unis sur le plan artistique. Très, très hostiles.
Elle a eu un rôle quand même. Paris, cette galerie n'a pas servi à rien parce qu'elle a montré quand même beaucoup d'artistes américains. Beaucoup venaient voir, ont découvert le pop art grâce à elle quand même. Oui. Ça a été important son rôle là-bas.
Oui, oui, mais enfin, elle n'a pas tellement vendu. Hein. Elle a vendu surtout aux Belges, aux Allemands et aux Italiens.
En France, on n'a pas les grands collectionneurs d'avant-garde. Voilà, c'est très peu. C'est-à-dire, il y a toujours ces grands industriels qui achètent plutôt l'art moderne et sont restés à l'art français. Donc en 45 ou même en 50, il n'y a pas le grand collectionneur en plus qui se fait connaître, comme les grands collectionneurs américains qui vont dire « Ok, j'achète Pollock, je vais acheter Rauschenberg ». Donc c'est pas du tout ça. Donc tout ça pour dire qu'en France, il y avait quand même une mainmise des revues d'art et de beaucoup d'intellectuels qui étaient marxistes et qui ne voulaient pas voir l'art américain arriver, ça c'est sûr. Voilà. C'est pour ça qu'il a été très peu montré. Mais je pense qu'une galerie comme MAG, qui avait la notoriété des plus grands artistes français de l'époque ou même européens, si elle avait montré régulièrement les grands artistes américains, les choses auraient été différentes. Mais elle-même n'y a pas cru. Et puis des galeries françaises qui n'avaient pas encore compris que c'était la fin quand même de la suprématie de l'art français au monde, se reposaient un peu sur leur laurier, continuaient à vendre des artistes, on va dire, plus classiques à des collectionneurs bourgeois français. Et tout d'un coup, ils ont été bousculés, ça c'est sûr.
Et lorsque Iliana s'est installée à Paris, je crois que c'est en 1962, l'art américain en France n'était pas précisément bien accueilli et n'avait pas bonne cote. Il y avait déjà quelques galeries américaines qui avaient essayé de présenter de l'art américain et qui n'y avaient pas réussi.
Le Bon Plaisir, 1985.
Donc, je pense qu'il faut porter au crédit d'Elana Salaben d'avoir réussi à imposer de façon tout à fait spectaculaire ce qu'on appelle le pop art américain. Mmh. Avec des gens comme Warhol, John, Lichtenstein, Rosenquist, Oldenburg, etc. Sa troisième ou quatrième exposition est une exposition du pop art américain.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Marcelin Plenet. J'aimerais simplement dire une chose. Madame Sonnabend a été la femme de Léo Castelli et je pense que le grand découvreur, c'est Léo Castelli. Car effectivement, lorsqu'on a vu arriver à Paris le pop art en 1962, c'était quelque chose de tout à fait étonnant, de tout à fait nouveau. Et je crois qu'il y a là un travail, j'irais jusqu'à dire, de propagande américaine qui a été fait d'une manière tout à fait remarquable.
Certes, de grandes plumes critiques crient au scandale en France, comme les poètes Alain Jouffroy et Alain Bosquet. On dénonce les maigres qualités plastiques du travail de Rauschenberg et des pop-artistes. On parle d'atteinte à la dignité de la création artistique, sur fond d'anti-américanisme attisé par les relations tendues que le général de Gaulle entretient avec les présidents américains tout au long des années 60. Le Parti communiste reste fort et des critiques contre la société de consommation dont le pop art exploite l'imagerie commencent à se faire entendre. On redoute une américanisation de la France, la perte d'une identité sociale et culturelle à coup de sélection du Reader's Digest, de Coca-Cola et d'appareils ménagers, mais aussi de films hollywoodiens qui déferlent depuis l'après-guerre. Si Ileana accepte d'essuyer les plâtres à Paris avec ses artistes US, c'est parce qu'elle sait que le travail mené par Léo depuis New York finira par payer. Que ces artistes pop vont dans le sens de l'histoire. C'est dans ce contexte tendu que de jeunes artistes français, loin d'être insensibles aux images proposées par leurs homologues américains, prennent conscience qu'ils sont en train de se faire souffler la place sur leur propre territoire. Eux ne bénéficient pas de puissants réseaux. Surtout, ils estiment qu'il est temps d'enterrer une abstraction française qui n'est plus en phase avec une société gagnée par la publicité, les journaux à grand tirage, les supermarchés, la télévision, mais aussi la guerre en Algérie ou au Vietnam. Pour eux, l'art doit renouer avec la figuration et le récit, le monde réel, la critique.
Je crois qu'il y a un retour à la figuration aussi en France, au début des années 60, qui est... menée par de jeunes peintres comme Arroyo, Adami, Rancillac, Télémaque, etc.
François Lévy-Kuntz, auteur et réalisateur.
Et qui, en parallèle finalement de la peinture pop américaine, se déploie aussi. Ils sont extrêmement fascinés par ce qu'ils voient, notamment dans la galerie d'Ileana Salaben. C'est vraiment une époque d'explosion où... on utilise la bande dessinée, tout un tas finalement de codes esthétiques qui sont vus par beaucoup de gens comme d'un extrême mauvais goût. La figuration narrative, quand ils découvrent ça chez Sonnabend, sont absolument fascinés par ce qu'ils voient, par Rauschenberg. Et ils vont, eux, créer un événement en 1964 qui est assez important, qui est une exposition... au musée d'art moderne, qui s'appelle Mythologie quotidienne, qui va regrouper finalement de manière assez large tous les artistes figuratifs pop français. Ce qui a beaucoup manqué à la peinture française pop de l'époque, c'est d'être soutenu par les institutions.
À l'époque, en France, les musées étaient des cimetières. Enfin, il fallait être mort pour être au musée, ou presque mort.
Bernard Rancillac, 2008. Interrogé par François Lévy-Kuntz.
On est les premiers, finalement, peintres de moins de 40 ans en France à avoir exposé dans un musée. Mais c'est que la ville de Paris n'était pas d'accord du tout et que le responsable des affaires culturelles à la ville de Paris a fait toute une scène, il trépignait en disant « Ces petits cons ne rentreront pas dans mon musée, mais on était déjà là. »
Donc, Ileana Salaben, c'était l'Amérique à Paris, quoi. Je suis allée dans sa galerie, j'étais en France avec mes parents. Et vous voyez, mes parents étaient typiquement des jeunes collectionneurs, très intrigués par ce qui se passait en France. Ils ont commencé à collectionner la figuration narrative, ils sont arrivés par là. C'est-à-dire que mes parents aussi se sont rendus compte que ce que proposait le pop art à l'époque, c'était plus excitant. C'était avant-gardiste. Enfin, mes parents, en plus, ne venaient pas de, n'avaient pas une grande fortune, donc c'était vraiment une curiosité intellectuelle. Il se trouve qu'ils ont pu acheter des tableaux. Mais quand on regarde les collectionneurs français qui allaient à l'époque chez Niana Sonnabel, les Durand-Ruel, la famille Guichard, les magasins Casino, Jean-Marie Rossi, le grand antiquaire, c'était très peu de personnes, et ça ne se savait pas. Donc Niana Sonnabel, voilà, faisait plutôt un travail de fond auprès d'intellectuels, de conservateurs de musées, pour justement légitimer, plutôt que de vendre à des collectionneurs, pour légitimer l'arrivée des Américains dans les institutions européennes, comme en Suède et comme en Allemagne.
Comment ils étaient reçus, ces artistes américains, dans les années 60 à Paris, notamment par la critique française?
Les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait un rejet. Oh, c'est les artistes américains, on ne veut pas voir. Mais d'un autre côté, surtout quand ils étaient arrivés le pop art, ça a permis de casser cette arrogance de l'abstraction qui était en plus bien organisée autour de Michel Tapier, l'art informel et tout ça. Donc il y avait quand même un certain nombre d'intellectuels qui n'aimaient pas juste ma mise de l'art abstrait sur la situation française. Donc en allant rechercher soi-disant des artistes néo-dadaïstes, c'est comme ça que Rauschenberg a pénétré, si vous voulez, le circuit. C'était pas le pop art américain, c'était plus subtil que ça. Parce qu'il était, voilà, il venait de l'objet, c'était sale, c'était ugly, c'était pas non plus, quand on voyait un Rauschenberg, quand on regarde un combined spending, aujourd'hui ça coûte une fortune, mais enfin c'était quand même pas très attractif, c'est pas très joli, ça avait pas objet de spéculation. Donc ça convenait bien à même des intellectuels, marxistes français, voilà, de défendre Rauschenberg. Le fameux tableau de Buffalo avec Kennedy, le parachute, ben, c'est toute l'histoire de l'Amérique. Alors on peut le voir dans les deux sens. On peut le voir en termes de triomphe de l'Amérique. C'était Kennedy, il venait d'être assassiné, le tableau date de 64, puisqu'il était à Venise. Il a été assassiné en 63. Puis le parachute, alors bon, on peut dire, voilà, on peut extrapoler sur le parachute. Alors que finalement, Rauschenberg, c'était une critique de l'Amérique. C'était l'engagement des États-Unis au Vietnam. Vous voyez, mais on peut le voir de deux manières. Et d'ailleurs, quand Iliana Sonnabel a ouvert sa galerie en 62 à Paris, elle a montré Warhol. Elle montrait les chaises électriques, elle montrait les accidents de voiture. Enfin, elle montrait toutes ces séries qui étaient plutôt une critique.
Elle a montré ce qu'on appelle les black paintings de Andy Warhol, c'est-à-dire Andy Warhol qui dénonce, c'était une critique de la société américaine. Je veux dire, ce que les Français n'ont pas compris, c'est que les artistes qu'ils montraient, c'était vraiment des anards, des gens critiques de la société américaine. Et parce qu'il y avait des drapeaux américains ou parce qu'il y avait Elvis Presley, les gens disaient, ce sont des promoteurs de l'Amérique. Non, c'était des promoteurs d'artistes critiques de la société américaine. Donc, je pense que c'est en France qu'on a manqué de subtilité pour les juger, vraiment. Hein.
Si une frange influente de la critique française fait de la résistance, la France finira par succomber au phénomène pop dans un contexte de crise du marché de l'art. Au début des années 60, le marché de la peinture abstraite s'écroule à Paris. La nature ayant horreur du vide, le pop art va peu à peu y trouver sa place. Le travail de Léo a fini par payer. Iliana et lui ont su convaincre les grands musées européens d'acheter leurs pop artistes, offrant ainsi une belle légitimité au phénomène new-yorkais. Iliana, un agent de liaison européen de son ex-époux Léo, passe des accords avec de grandes galeries et de riches collectionneurs du monde de l'art en Italie, en Belgique et surtout en Allemagne. Plus que la France, c'est surtout l'Europe qui accueille le réservoir d'artistes de Léo, qu'il prend le soin de distiller savamment au compte-gouttes afin d'exciter la curiosité et la demande. Un réseau puissant qui va installer définitivement le triomphe de l'art américain et reléguer Paris au second plan. La consécration survient en 1964 avec la remise du Lion d'or de Venise à l'artiste américain Robert Rauschenberg. Une première.
Le moment charnière, c'est effectivement la Biennale de Venise de 1964 qui consacre pour la première fois un jeune peintre américain, Rauschenberg, qui d'ailleurs ne devait pas concourir à la Biennale. Et je crois qu'il y a un tour de passe-passe de Léo Castelli qui arrive à déplacer les tableaux d'un endroit à un autre et, dit-on, de lui faire obtenir le Grand Prix qui célèbre définitivement, je pense, New York comme capitale du monde de l'art.
qu'est-ce que ça marque pour vous, cette biennale, ce prix de 1964? Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Qu'est-ce que ça symbolise?
Ça symbolise que c'est la fin de l'intouchabilité de la France, voilà, en termes d'art. Voilà, ça avait été dit déjà par Clément Greenberg, il le disait depuis 15 ans, ça se disait aux États-Unis. Hein, puis ça se disait, ça se voyait aussi dans les collections, puisque des grands collectionneurs européens achetaient quand même américains. Donc à un moment donné, il manquait cette dernière marche. Ce lion d'or, c'est effectivement... l'arrivée des États-Unis sur un plan de reconnaissance internationale. À l'époque, encore aujourd'hui, mais le Lion d'or de Venise était l'événement le plus important. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut même remettre dans le contexte. C'était le prix. Le prix. Donc c'est tout un symbole.
La déflagration à ce moment-là est importante en France. C'est vraiment quelque chose dont on parle.
Alors, du coup, on s'est dit, ça y est, c'est la collusion entre l'argent, les critiques d'art qui sont achetées par les galeristes, l'artiste qui se laisse manipuler. Enfin, oui, bien sûr, c'est une déflagration.
En fait, Castelli avait toutes les clés pour que Rauschenberg gagne le prix. Il a réussi à imposer quelque chose auquel il croyait. Il croyait que Rauschenberg était le meilleur. Mais, effectivement, il a fait venir les œuvres de Rauschenberg dans un avion militaire. C'est le copain de Castelli qui s'appelle Alan Solomon, qui était un prof à Cornell University, qui a été le commissaire du pavillon américain. Il y avait dans l'affaire Léo Castelli, et il y avait Iliana Zonnabend et son mari, qui étaient encore marchands à Paris, et qui faisait de la publicité sur les colonnes Maurice. Il faut voir aussi qu'ils ont introduit dans le métier du marchand, du galériste contemporain, des outils de marketing, des outils de business. Ils se sont servis des colonnes Maurice, ils se sont servis de la presse, ils se sont servis... Bon. Et ça, c'est des choses dont on n'avait pas l'habitude en France.
Alors bien sûr, la victoire de Rauschenberg n'a pas fait plaisir à tout le monde, surtout pas à Paris. On ne peut pas être vraiment surpris que Rauschenberg gagne.
Catherine Dossin, historienne de l'art.
Jusque-là, à Venise, on consacre les artistes en fin de carrière. On présente Matisse, Braque, Miro, les grands artistes qui sont déjà reconnus. Ça se voit très bien dans le pavillon français en 64. Rolio Gonzalez et Jean Bissière. Et jusque-là, c'était la même chose dans les autres pavillons. Mais en 64, les choses changent. Dans le pavillon allemand, Edward Thier rompt avec la tradition des expositions rétrospectives et présente un groupe de jeunes artistes allemands. Le pavillon belge présente Paul Bory, qui représente les nouvelles tendances, et surtout le pavillon italien présente une exposition de la nouvelle figuration. Le temps est à la jeunesse et à la nouveauté, c'est un peu cliché, mais c'est quand même vrai. Et au milieu de tout ça, la France persévère dans une vision rétrospective et patrimoniale, de plus en plus en décalage avec le reste du monde.
Je ne comprends pas comment depuis, on va dire, la fin des années 50, on n'est pas montré à la Biennale de Venise. On avait Klein, on avait Tinguely, on avait Niki de Saint-Phal, on avait les Armand, les César étaient déjà là. Simplement, nous, on montrait toujours les artistes de la peinture abstraite. Enfin, je veux dire, les Américains, on ne peut pas les accuser de tous les maux. Simplement, ils ont compris qu'ils avaient les artistes qui pouvaient répondre à une certaine attente à la fois philosophique, économique et politique, et puis les acteurs autour qui jouaient le jeu.
Vous voulez dire qu'on était passé à l'avant-garde?
On les avait, les artistes d'avant-garde. Mais à l'époque, c'était De Gaulle avec Malraux, qui est le grand ministre de la Culture. Mais pourquoi nous n'avons pas envoyé à la Biennale de Venise, face aux Américains qui commençaient quand même à se faire connaître, on ne pouvait pas dire qu'on les ignorait, comment n'avons-nous pas répliqué, puisque après tout c'est ça, la Biennale de Venise, c'est un match, en envoyant nos artistes de l'avant-garde. Voilà. Alors qu'on est resté figé sur l'école de Paris ou la deuxième école de Paris.
Et c'est vrai que la victoire de Rauschenberg marque une transition. Il est important de comprendre que la victoire de Rauschenberg, elle s'est faite sans l'action du MoMA, sans l'intervention des fondations philanthropiques américaines. C'est une consécration européenne de Rauschenberg. Alors si on veut, par extension de l'art américain, Mais je pense qu'il serait aussi plus juste de dire une consécration du travail de Castelli de Sonnabone, qui ont fait beaucoup pour que leur artiste soit connu et reconnu en Europe. Ce qui s'affronte à Venise, ce sont deux visions du rôle des institutions. La consécration des anciens ou la découverte des nouveaux. Ce qui triomphe pour moi, c'est la nouveauté et la jeunesse. C'est-à-dire des valeurs qui n'ont pas beaucoup de poids en France à cette époque. Comme le fameux poster « Sois jeune et tais-toi » le dénoncera sur les murs de Paris 2 ans plus tard, en mai 68.
En mai 1968, précisément, Ileana quitte Paris. Lasse d'encaisser les quelques manifestations hostiles qui demeurent à l'égard de ses artistes, comme celle des étudiants qui défilent sous les fenêtres de son appartement du boulevard Saint-Michel. Elle veut retourner à New York, auprès de Léo, avec qui elle a le projet d'une nouvelle galerie à Soho. On retrouvera Ileana sur le devant de la scène française en 1988. Le CAPC de Bordeaux présente son œuvre, soit 25 années d'une collection ouverte à Paris en 1962 avec les American Jones, Rauschenberg, Warhol, riche également d'artistes européens et surtout d'un tout nouveau poulain Made in USA qu'elle souhaite faire découvrir aux Français, Jeff Koons. Son sens de l'efficacité, typiquement américain, est intact. Mon idée de galerie, dit-elle, est de développer des artistes. Je les prends quand ils sont jeunes et bon marché, et je les rends célèbres et chers. En 1988, Ileana et Léo sont toujours aux affaires. À défaut d'occuper le haut du panier, ils occupent encore celui du marché. Un marché de l'art qui, plus d'un demi-siècle après le coup de force de Venise de 1964, reste plus que jamais américain. Les deux immigrés, italiens et roumains, ne comptent pas pour peu dans ce triomphe.
C'est une collection que j'ai faite avec beaucoup d'enthousiasme pour les œuvres et beaucoup d'affection. Et chacune de ces œuvres représente beaucoup pour moi. J'espère que la visite de la collection montrera qu'il y a un dialogue entre l'Europe et l'Amérique et que la place de l'Europe est toujours là ensemble.
Holly King, Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side.
Léo dans l'ombre d'Ileana ou le sacre du pop art de Paris à Venise. Fin de la deuxième partie. Avec Nathalie Obadia, galeriste, Annie Cohen-Solal, biographe de Léo Castelli, Catherine Dossin, historienne de l'art, et François Lévy-Kuntz, auteur, réalisateur. Extrait de Quand l'art prend le pouvoir de François Lévy-Kuntz, production Les Poissons Volants et Réunion des Musées Nationaux. Archivina, Sophie Enoch. Documentaliste, Anne-Lise Signoret et Véronique Le Falleur. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Retour sur les traces douloureuses de la Grande Guerre. Mais c'est une autre histoire.